La marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. L'Asie, le thème de nos rediffusions cette semaine.
Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse.
Les mangas vus de France.
Samouraï de l'ère Meiji, mutant venu d'une autre galaxie, en manga, nous cartonnons dans le monde entier. Ici en Asie, chaque semaine, nous sommes publiés dans des magazines manga sous forme de romans fleuves et bon marché. Pour les plus jeunes, nos traits sont souvent simplistes et nos costumes irréels. Mais parfois, nos créateurs choisissent de nous donner un visage plus réaliste et de nous plonger dans un monde d'autant plus inquiétant qu'il est le vôtre.
Les Français qui sont attirés par le Japon traditionnel ont souvent été désarçonnés par les mangas. Que sont tous ces petits bonshommes aux gros yeux ronds, aux cheveux en pétard et qui courent en tous sens au rythme d'une tornade ? Aux sceptiques et à ceux qui sont pris d'horreur, on a donc expliqué qu'il fallait chercher les origines des mangas non seulement dans les comics américains qui ont déferlé sur l'archipel après-guerre, mais d'abord dans les stands traditionnels qui n'hésitaient pas devant le grotesque. Le manga, à proprement parler, c'est le dessin grotesque. Vu de France, le manga a sa propre généalogie. Les studios japonais, qui se consacraient à la production pour les mensuels puis les hebdomadaires, était bien armé pour l'animation. Et l'animation a cherché son salut dans l'exportation. Dès les années 1970, la télévision française fut ainsi inondée de productions japonaises qui s'achetaient sans beaucoup de contraintes et à bas prix. Les enfants, biberonnés à Dorothée sur Recréa 2, furent ensuite disponibles pour Akira, le premier grand succès manga sur grand écran en France au tournant des années 1989-1990. Les vannes s'ouvrirent ensuite pour les mangas papier. Avec le concours de grands éditeurs ou plus petits, tous les genres, tous les thèmes qu'ils traitent trouvèrent leur chemin chez nous, y compris les plus subtils. Il est en effet des mangas sans action qui ne tiennent que par la subtilité de leur style. Le manga continue cependant à inspirer ici certaines méfiances. Trop de violence automatique, trop de sexe libre. Il est vrai que si la censure existe au Japon, elle n'a pas été organisée comme en France autour d'une commission spécialisée dans les publications pour la jeunesse. Mais si tant de jeunes se tournent vers les mangas, c'est sans doute pour une autre raison. Avec eux, ils disposent d'une culture propre qui échappe largement à leurs parents, qui, s'ils connaissent peut-être les films d'animation, ne maîtrisent pas encore bien les codes narratifs des mangas papier. Si on peut se permettre ce pléonasme.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et un invité grand et une invitée de 15 ans. Allez, je commence par Mathieu Pinon. Bonjour Mathieu Pinon.
Bonjour Jean Lebrun.
À 15 ans, vous ne lisiez pas encore de manga.
Pour la simple et bonne raison que ce n'était pas disponible en France.
Et étudiant à Strasbourg, vous commenciez à vous intéresser au genre et puis on vous a proposé de devenir critique d'un jour, et critique d'un jour, c'est critique de toujours.
Exactement, j'avais mis le doigt dans l'engrenage et c'était fini pour moi.
Vous participez à un journal qui s'appelle Coyote, qui rencontre beaucoup de productions, et puis vous avez publié chez Yenis deux livres, l'un sur un siècle d'animation japonaise et l'autre sur l'histoire du manga moderne que je viens d'offrir à Junie Boudoucier, ici présente. Bonjour.
Bonjour.
15 ans, alors qu'est-ce que c'est la découverte pour vous des mangas? Ça vient pas des parents?
Non, en fait, ça vient avant tout de mes frères et sœurs, qui sont beaucoup plus vieux que moi. Et quand j'étais petite, je pouvais avoir accès aux mangas qu'ils avaient lus. Et j'avais fini par les découvrir dans un carton de livres de déménagement au dernier étage de ma maison. Et j'étais tombée sur les cartons de mangas et j'en avais pris un peu au hasard. Et je me souviens très bien du premier manga que j'ai lu, enfin je pense. C'était le tome 11 de One Piece.
Ah, et à l'époque, le tome 11.
Oui, pas le tome 1. Et à l'époque, je comprenais vraiment pas ce que ça racontait, parce que c'était le tome 11, mais aussi parce que enfin, les codes, le dessin, tout était très différent de ce que j'avais l'habitude de lire dans les bandes dessinées.
Et vos parents n'ont toujours pas compris ce qui vous rassure. Alors on va faire un peu d'histoire de base. Hein. Les origines au Japon, on ne va pas remonter à Hokusai et à l'estampe. Mais au dieu, c'est comme ça qu'il est toujours présenté. Il est l'objet d'ailleurs plus d'agiographie que d'analyse. On connaît de lui en France le roi Léo.
Dans le grand vent des forts, c'est un plaisir d'appartenir à la famille de Léo.
Il n'a peur de rien, les loups tremblent devant lui. Il tient des anciens l'expérience de la vie, mais il sait quand il le faut parler d'amour.
Mais le dieu du manga était, dès l'origine des 1947, répète-t-on, à la fois Hergé et Walt Disney.
Tezuka a inventé, ou du moins posé les bases du manga moderne en 1947, avec un récit qui s'appelle La Nouvelle Île au Trésor. Et c'est un récit dans lequel il met en place un vocabulaire qui est très inspiré du cinéma. Jusque-là, le manga était très théâtral, avec la case correspondait à une scène, les personnages vus en pied. Et là, il va intégrer des techniques cinématographiques, de changement de plan, d'utilisation de travelling, bien sûr retranscrit sur la page. Et ensuite, il va travailler à dépasser juste la transposition et arriver à un vocabulaire qui est vraiment spécifique à la bande dessinée.
Xavier Guilbert, qui a consacré une exposition à Tezuka à Angoulême, bien après celle qui a eu lieu au musée d'art contemporain de Tokyo, juste après sa mort. On a besoin comme ça, Mathieu Pinon, d'un emblème, d'un socle.
Ah mais d'un côté on en a besoin, mais même s'il n'avait pas besoin, Tezuka s'est imposé par lui-même. S'il est surnommé au Japon le dieu du manga, hein, littéralement, ce n'est pas pour rien. Comme l'expliquait si bien Xavier Guilbert dans l'extrait que vous venez de passer, il a mis en place un nombre de techniques narratives qui servent encore aujourd'hui dans les mangas qui sont publiés à l'heure actuelle au Japon. Donc il a vraiment développé la boîte à outils du parfait petit mangaka, du parfait petit narrateur en bande dessinée japonaise. Donc rien que pour ça, le manga en tant que tel lui est énormément reconnaissant. Mais comme disait si bien Tezuka lui-même, si le manga est ma femme, l'animation est ma maîtresse.
Ah, alors justement, il ne faut pas confondre le manga papier, je répète, c'est un pléonasme, et l'animation. Ben, enfin, néanmoins, Tezuka, lui, il avait un atelier de manga et il a développé un studio d'animation.
C'est cela.
Et c'est un cas unique alors dans ce.
Mais c'est un cas vraiment, c'est un cas d'école, c'est un cas exceptionnel. C'est comme imaginer si Hergé, en parallèle de Tintin, avait fait des adaptations lui-même de ses propres bandes dessinées, par exemple. Et pour vous donner une idée, chers auditeurs, Tintin, un album, c'est environ 50 pages. Tezuka, dans sa vie, a dessiné 150 000 planches. C'est donc comme s'il avait dessiné l'équivalent de 3000 albums de Tintin à lui tout seul, ou quasi.
Alors, on peut commencer en parlant des ateliers de mangaka, les ateliers pour les mensuels, puis les hebdomadaires. Vous m'avez apporté l'équivalent de Spirou. C'est énorme, hein, ça paraît toutes les semaines.
Oui, on peut dire, hein, c'est un format bottin. Hein, Et donc, ça paraît toutes les semaines, ça coûte environ 2 euros, il doit y avoir une trentaine de chapitres d'une vingtaine de pages chacun.
Donc Junie, ça interroge sur les conditions de productivité des ateliers. Vous êtes allé au Japon ?
Oui, récemment.
À cause du manga ?
Disons que ma fascination pour le Japon, enfin ce qui m'attire avant tout au Japon, c'est les mangas, parce que c'est à travers les mangas que j'ai découvert le Japon.
Vous l'avez vu à un musée, mais le musée, c'est pas l'atelier. L'atelier du mangaka, vous l'avez découvert par un manga qui en raconte la vie quotidienne.
Il s'agit du manga Un zoo en hiver de Jiro Taniguchi. Et donc, je l'ai lu il y a quelques années. Et c'est un récit un peu autobiographique, dans un sens, qui raconte l'histoire d'un jeune adulte qui va aller dans un... qui va travailler comme assistant à Tokyo pour un mangaka. Et donc, ils travaillent énormément. C'est des fois pour boucler la fin de leur chapitre. Enfin, ils enchaînent plusieurs nuits blanches. Et ça raconte aussi comment il va publier sa propre histoire.
Et on aime raconter comment on est charrette dans les ateliers de mangaka, dans les mangas.
Exactement. C'est un médium qui aime parler de lui-même, au sens où déjà c'est un médium qui fait rêver encore les jeunes japonais, puisque les mangaka qui réussissent le mieux deviennent de véritables stars. Très souvent, l'une des personnalités les plus taxées au niveau des impôts au Japon, on apprend publiquement que c'est un dessinateur de manga. Donc, comme c'est un métier qui fait rêver, les auteurs aiment en parler. Et donc, ils expliquent tout à fait les délais qui leur sont tenus, puisque paraître publier 20 pages chaque semaine, ça peut se jouer parfois à la minute près. Où est-ce qu'ils vont chercher l'inspiration? Comment font-ils face à la page blanche? Quelles sont leurs méthodes? Il y a un manga qui s'appelle Bakuman, sorti aux éditions Kana, qui explique très très bien ça, mais avec en plus le côté épique des combattants. Quand on prend sa plume pour ancrer sa page, c'est littéralement sa vie qu'on est en train de jouer.
Et c'est pire quand il s'agit d'un studio d'animation. Voici un décrit à la façon de Random Watcher, youtubeur.
Concernant les studios en eux-mêmes, il y en a une chier. Déjà, faut savoir que c'est environ entre 120 et 200 animés qui sont produits et diffusés chaque année, avec à peu près une centaine de studios actifs. C'est une industrie très dure où tout le monde bosse du matin au soir et a une responsabilité qui accentue le stress des employés, quoi. Vous rajoutez à ça le salaire ridicule que se tape la plupart des animateurs, les menaces de mort des fans mécontents sur une série, et vous avez la recette du kaloshi. Alors, je démarre direct dans le glauque du sujet, mais bon, il faut quand même en parler. Oui, monsieur, il faut en parler. Sujet sensible. Le kaloshi, c'est ce qui désigne les morts par arrêt cardiaque, AVC ou suicide dû au surmenage. Dans l'animation, c'est déjà arrivé plusieurs fois et récemment, les voix commencent à s'élever dans le milieu dénonçant les heures complètement abusées que certains employés effectuent. Il y a des fois, on parle quand même de 150 heures supplémentaires fournies par certaines personnes par mois. Non mais les mecs qui sont dans la Japanimation, ils font qu'une seule fois le trajet pour aller au boulot puisqu'une fois qu'ils sont sur place, ils dorment là-bas.
Dites-moi, n'oublions pas notre sujet, Mathieu Pinon. Les mangas vus de France, alors justement, c'est par les films d'animation que la connaissance du manga a commencé. Vous avez été biberonné à Dorothée.
Oui, pour bien comprendre les raisons premières qui ont fait que le manga s'est si bien imposé en France, il faut remonter à la télévision, donc avec notamment Dorothée. Alors, on cite souvent le Club Dorothée 1987-1997 comme la référence, car le Club Dorothée avait en masse des séries animées adapté de manga pour jeunes adolescents, avec cet esprit bouillonnant, sans combattant, donc que ce soit Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, et j'en passe, donc de véritables fers de lance. En face, néanmoins, on l'oublie un peu trop souvent, sur l'A5, il y avait tout le catalogue que Berlusconi avait acheté en Italie pour diffuser, il a réorienté vers la France, il y avait juste à faire une adaptation en français, et ça coûtait pas bien cher.
Chaîne privée à la fin du premier septennat.
86-92, si ma mémoire est bonne, pour la durée de la 5. Et là, on avait un côté un peu plus romantique, un peu plus accessible aux filles, avec des Jeanne et Serge, avec Lucie, l'amoureux rock'n'roll, et j'en passe. Et donc, tout le monde a pris ça pendant une dizaine d'années. Il y a eu un gros embargo à partir de 93-94 suite à une grande croisade de Ségolène Royal contre la violence des dessins animés japonais. À partir de 95, il n'y en avait presque plus qui étaient diffusés à la télévision et donc les jeunes se sont rabattus sur le papier, la source originale qui était devenue disponible
en librairie. Oui, mais avec quand même un moment d'opening, c'est comme ça qu'on dit pour les génériques, dans le manga, qui est le passage avec un grand succès chez les adultes qui avaient, comme vous, été biberonnés par Dorothée, sur grand écran, d'Akira.
Tokyo, 16 juillet 1988. 31 ans après la Troisième Guerre mondiale. AD 2019, né au Tokyo.
Double rotor céramique, deux roues motrices. Putain, cet engin a même l'ABS et un système électronique. 12 000 RPM.
Envie de la conduire, Tetsuo?
Bon, allons-y.
Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme toi.
Cette moto te concasserait comme une vulgaire olive, mon vieux. Je pourrais la conduire.
Ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un tricycle.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les vannes ouvertes par Akira, voilà le manga papier, pléonasme, je le dis pour la troisième fois, qui arrive en France par le biais d'éditeurs.
Oui. par le biais de Jacques Glénat, donc, qui... alors, faut bien prendre conscience de l'impact qu'a été Akira. C'est un film d'animation, là où le français est habitué généralement aux productions Disney très tout public, parfois un peu trop enfantine. Là, on a un véritable film d'action, de science-fiction, pour public de jeunes adultes, dans la droite lignée de Blade Runner. Ça a été une véritable claque. Et donc, Jacques Glénat a édité le manga en France. Et à l'époque, il le sortait version comme les comics américains, c'est-à-dire avec une version cartonnée au format A4 proche de la bande dessinée française, des planches colorisées pour ne pas choquer le lecteur qui était encore habitué à la couleur, et le noir et blanc, il connaissait pas. Et la première fois qu'on a pu avoir arrivé des mangas au sens tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc format poche, noir et blanc, c'était des adaptations, enfin, les titres à l'origine de séries animées diffusées dans le Club Dorothée, donc Dragon Ball, Sailor Moon, et j'en passe, et ça, c'est aux environs des années 95.
Vous avez dans votre livre sur l'histoire du manga chez Yinis une table ronde avec des éditeurs, d'où il ressort que les éditeurs qui ont commencé à publier des mangas disposaient d'une certaine liberté. Il n'y avait pas de contraintes qui étaient imposées par les ayants droit japonais. Alors du coup, est-ce que ça a permis de rendre plus souple le partage des genres, la segmentation du marché très caractéristique de ce qui se passe au Japon? On va se tourner vers Genie Boudoucier, 15 ans. Segmentation du marché. Il y a, Junie, des publications pour les adolescentes comme vous. C'est ça que vous lisez?
En fait, pas vraiment. Disons que au Japon, oui, c'est très segmenté en fonction de la personne. Et donc, on considère qu'il y a les shonen pour les garçons et les shoujo pour les filles chez les adolescents, grossièrement. Et moi, j'ai pu obtenir des shoujo par ma grande sœur. Mais je préfère beaucoup plus lire des shonen. Parce que tous les shoujo que j'ai obtenus, en tout cas, c'était des espèces d'histoires d'amour qui se ressemblaient un peu toutes. Et c'est pas vraiment ça qui m'intéresse quand je lis des mangas.
Il y a un hebdomadaire ad hoc pour les shonen.
Alors, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Ouais. Vous avez le plus connu est le Shonen Jump, donc voilà l'exemplaire que je vous ai apporté, l'espèce de bottin de 300 ouais. pages. Et à sa grande période, donc au milieu des années 90, le tirage était de 6 millions et demi par semaine.
Et je vois d'exemplaires. Et je vois inscrit en lettres de feu sur la première page, qui se situe donc à la fin, la quatrième de couverture dans l'édition française, le nom de Naruto. Alors, Naruto, ça c'est un duo bien connu sur Canal+, que vous avez déjà écouté, peut-être avec circonspection, Mathieu Pinon, il s'appelle Orelsan.
Orelsan et Gringe, le duo de Bloqué.
Et t'as vraiment lu Balzac?
Ouais. J'ai honoré Balzac de ma lecture.
C'est marrant parce qu'au son de ta voix, j'ai compris que t'avais fait une vanne, mais je l'ai pas comprise.
Non, mais tant mieux que ça, mon pote vient de faire un bon mot.
Comment ça a l'air relou. Y a des ninjas dans Balzac?
Pas dans les 20 premières pages, en tout cas.
Oh putain. Dans Naruto, dans les 20 premières pages, y a déjà deux bagarres. T'as pas été plus loin?
Ah non, j'ai lu en diagonale, t'es ouf.
Dans Naruto, en un chapitre, il a le temps d'apprendre une nouvelle technique.
Putain. Dans Balzac, en un chapitre, il a à peine le temps de traverser la route. Je me faisais tellement chier, à un moment j'ai sauté 3 pages pour qu'il fasse un clin d'œil plus rapide.
Oh, t'as eu tellement raison d'abandonner.
Ouais.
Il devrait faire des mangas Balzac. Dragon Balzac. C'est un bon mot, ça?
Alors, Genie, shonen ou Balzac?
Ah, moi personnellement, je suis une grande lectrice de mangas. Mais en parallèle de ces lectures, je lis beaucoup de d'autres livres, des romans qu'on pourrait peut-être qualifier de plus intellectuels. Comme Balzac, qu'on vient de citer, mais aussi Flaubert ou des auteurs étrangers. Aussi, parallèlement à ma lecture de mangas japonais, j'ai essayé de m'intéresser à la littérature japonaise avec des auteurs comme Murakami ou Kenzaburo Oe. Et c'est assez intéressant parce que c'est pas le même format, donc ce sont des écritures assez différentes. Mais comme ça vient aussi du Japon, on peut quand même trouver des similitudes entre mangas et romans japonais.
Il y a un article intéressant dans Books sur le gourmet solitaire. Et justement, l'auteur de l'article, Thierry Grief, fait la comparaison entre ce manga, le gourmet solitaire, et le roman idéal selon Flaubert, c'est-à-dire un roman où il ne se passe rien, disait-il à Louis Collet, et où tout tient seulement par le style. Ça peut exister dans le manga?
Ça peut totalement exister. Le manga s'offre une liberté d'expression, que ce soit sur le fond ou sur la forme, sans aucun précédent, quelle que soit la force de l'industrie du comics aux États-Unis ou la force de l'industrie de la franco-belge en Europe, ces deux bandes dessinées ne rivalisent pas avec la diversité et la variété qu'il peut y avoir au manga. Pour vous donner un exemple, en 2018, on a vendu 16 millions de mangas environ en France, et nous sommes le deuxième pays consommateur de mangas. 16 millions, c'est le montant cumulé des deux meilleures ventes mangas sur l'année au Japon. Donc c'est juste le top 2 en volume qu'on a fait en France. Donc vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir derrière. On parle de milliards de tomes qui sont disponibles à chaque fois dans tous les genres possibles et imaginables, que ce soit contemplatif, comme dans l'action la plus débridée qu'on puisse retrouver dans Naruto, One Piece et les séries qui ont du succès aujourd'hui en France.
Et je reviens aux garçons et aux filles, Junie Boudoucier. Il y a des mangas où se rencontrent les garçons et les filles. Ils ont quelle allure d'ailleurs les garçons dans ces mangas?
Vous
ne les trouvez pas un peu androgynes parfois?
Si, c'est ce qu'on peut trouver dans certains shoujo par exemple. C'est vrai qu'en vrai, je trouve qu'en général, la plupart des dessins se ressemblent assez entre beaucoup de shoujo au niveau des dessins des filles et des dessins des garçons. Et c'est aussi pour ça que je préfère lire des shonen qui offrent peut-être plus de diversité de style de dessin.
On ne verrait pas de garçons travestis dans la BD française ou belge?
On le verrait peut-être difficilement. Je pense que depuis une dizaine d'années, le champ des possibles s'est ouvert en bande dessinée franco-belge, mais pour ce qui est d'aborder des thèmes sociétaux, comme le travestissement ou être transgenre, le manga en parle dans des mangas avec le même sérieux qu'on en parlerait dans un essai ou dans un article publié dans la presse à grande échelle.
Mais une différence dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas au Japon de commission de publication destinée à la jeunesse et qui exerce une surveillance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de surveillance et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de censure.
Il y a une surveillance qui a mis du temps, enfin, qui s'est installée de manière très difficile et délicate. Ça a commencé peu de temps après la guerre, il y a eu des autodafés à l'époque, notamment l'île au trésor de Tezuka, alors que c'est quelque chose qui...
Mais c'est le manga qu'on évoquait comme fondateur tout à l'heure.
Et il y avait vraiment 1947. Aucune raison de chercher quoi que ce soit de négatif dedans. Donc à partir de là, ça s'est adapté. Et dernièrement, il y a une loi qui est passée, qui serrait un peu plus la vis au côté créatif des Japonais, justement avec un côté un peu censure, et contre lequel beaucoup de sociétés et d'auteurs sont montés au créneau.
On parlait tout à l'heure des éditeurs en langue française des mangas. On citait Glénat, il faut citer Kana, il faut citer Delcourt. Et puis, dissident de Delcourt, installé dans une bourgade du Limousin, Akata, dirigé par Bruno Femme, qu'interroge ici Franck Olivard.
On a des ouvrages assez choquants. Par exemple, on a Tu sauras un saumon, mon fils. Et c'est l'histoire d'un... alors derrière le pitch, il est un peu vulgaire. Ça veut dire que c'est un jeune collégien qui va aller se masturber dans la rivière et du coup, il devient le papa d'un homme saumon. Et donc, nos accroches promo, elles sont un peu vulgoses justement parce que c'était... il n'aurait peut-être pas dû se branler dans la rivière. Et ça a choqué le pitch promo, ça a fait parler. Et en même temps, ça a fait parler du livre et les gens l'ont lu. Derrière, ils se disent « Ah, mais en fait, derrière, il y a un vrai propos ». Moi, j'aime pas le cloisonnement, justement, et beaucoup les éditeurs de manga, ils ont créé des étiquettes en utilisant des mots japonais qui sont shonen, shoujo, seinen manga, en disant « Ah, ça, c'est comme ça, ça, c'est pour ci, ça, c'est pour ça ». Effectivement, on a un catalogue qui est assez poreux, où on met SML, qui veut dire small, medium et large, pour dire « Bon, ça, c'est plutôt à partir jeune public, plutôt pour les ados, plutôt pour les adultes ». Mais on n'a pas voulu étiqueter de manière très claire pour les garçons, pour les filles. Alors, il y a des micro-codes couleurs, mais qui sont pas très marqués.
Et une porosité des genres nouvelle est peut-être plus facile en France qu'au Japon.
Oui, parce que le lectorat a mûri. Le lectorat a appris en lisant depuis maintenant 20 ans du manga. Ils ont appris à digérer cette culture. Des éditeurs comme Akata, justement, s'efforcent de ne pas proposer des shoujo qui soient des romances un petit peu à l'eau de rose, comme peut le regretter Junie. Il y a un titre excellent que je vous conseille chez eux qui s'appelle « Adieu mon utérus » et qui parle justement d'une femme qui subit l'ablation de son utérus suite à un cancer. C'est autobiographique et c'est vraiment poignant. Et donc, à partir de là, oui... il y a une frontière des genres, de même que les filles peuvent lire des mangas pour garçons, les garçons peuvent lire des mangas pour filles, sans trop se poser de questions. Même si, encore une fois, c'est le marché pour garçons qui prédomine sans conteste sur le marché.
Puisque je vous ai offert, Junie, le livre de Mathieu Pinon, chez Guinness, vous avez peut-être une question. Je laisse libre cours, là. Vous n'avez pas une question à poser
Une question.
À un grand spécialiste comme Mathieu Pinon.
Je ne sais pas. Des fois, je trouve que je regrette un peu l'absence de beaucoup de mangaka filles dans le marché du manga, Mais il y en a quand même.
Alors il y en a plus d'une. On peut notamment citer celle qui a été mise sous le feu des projecteurs au début de l'année dernière, cette année, Rumiko Takahashi, puisqu'elle a été élue Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2019. Mais c'est très amusant cette remarque, puisque c'est à la fois la deuxième femme seulement à recevoir ce prix, et c'est également la deuxième personne japonaise à le recevoir. Mais donc Rumiko Takahashi, elle a fait Ranma Demi, Inuyasha, qui sont majoritairement pour les garçons. Mais il y a également d'autres dessinatrices qui sont bien représentées sur le marché français.
Moi, j'espérais que vous alliez poser une question sur, je sais pas, les mangas d'histoire. Ou alors.
Mais vous pouvez la poser très.
Une question sur même. Les mangas japonais parlant de l'histoire de France. Ça existe, ça, d'après vous, Génie?
Je suppose. Parce que. J'ai l'impression aussi que le Japon est assez fasciné par la France. C'est ce que j'ai vu au Japon. Il y a beaucoup, par exemple, de restaurants qui se veulent de cuisine française. Donc je suppose que, vu cette fascination, il doit exister beaucoup de mangas sur la France.
Vous supposez bien, j'imagine.
Tout à fait.
Finissons par notre rassurante.
Eh bien, nous allons finir avec une des plus belles passerelles qu'on puisse trouver entre l'histoire de France et l'histoire du Japon, à savoir Ryoko Ikeda, qui est donc une mangaka qui a créé un manga qui s'appelle au Japon La Rose de Versailles, plus connu en France sous le titre de Lady Oscar, et qui relate la Révolution française à travers les yeux d'Oscar François de Jargeil, une fille née, dans une lignée aristocratique, et comme le père n'avait eu que des filles, il voulait absolument avoir un garçon, il a donc élevé comme un garçon. Jacques Demy en a fait un film, et c'est un symbole de l'émancipation féministe au Japon, tant à travers le destin de Marie-Antoinette qui était rebelle, que d'une femme qui, en portant un pantalon, pouvait se montrer aussi compétente qu'un homme.
Et il y a des images assez étonnantes de la cour d'Autriche où on voit la vieille impératrice Marie-Thérèse taper sur la tête de la petite Marie-Antoinette parce que Génie, ses résultats scolaires étaient médiocres.
Et j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Ryoko Ikeda à Versailles, qui venait interpréter, puisque maintenant elle a fait une carrière de cantatrice, elle a passé un diplôme, elle est réellement cantatrice soprane, et elle est venue à Versailles interpréter des leads composés et écrits par Marie-Antoinette, et c'était vraiment une espèce de boucle qui se bouclait de manière très cocasse.
Nous avons choisi pour fermer l'opening de La Rose de Versailles.
J'étais parti pour chanter la fin du générique comme au karaoké japonais, dites donc. Pour finir, on a beaucoup parlé de l'histoire du marché du manga et de l'animation, enfin, vue de France. Il faut bien prendre en compte que depuis quelques années, maintenant, on a un véritable virage. Juni est en plein dedans, à savoir qu'avec la dématérialisation, il est possible désormais d'avoir des dessins animés une heure après leur diffusion au Japon en version originale sous-titrée de manière légale en France. Et de même, les éditeurs maintenant font en sorte de proposer les scans des mangas un jour ou une semaine après leur sortie au Japon, afin que le public français puisse, que le retard avec le Japon s'amenuise de manière drastique. Donc maintenant, on est vraiment en train de se caler sur le marché japonais.
Mais le podcast, lui, il est possible encore plus rapidement pour les émissions de France Inter. Celle-ci a été préparée par Nolwenn Bakri avec Paul Percheron à la technique.
Et c'était les mangas vus par la France, une nouvelle diffusion de la marche de l'histoire du 22 mai 2019.